France Musique, sous la couverture, Philippe Venturini.
Bonjour, je suis heureux de vous retrouver en ce début d'année 2025, que je vous souhaite bien sûr heureuse et musicale. Nous sommes le 5 janvier 2025 et il y a tout juste 150 ans, le 5 janvier 1875, était inauguré un des monuments devenus les plus symboliques de Paris et de la France, l'Opéra de Paris, à savoir le Palais Garnier. Il y rôde, paraît-il, un fantôme que je vous propose d'approcher en compagnie de Martine Kahan, mon invitée. Enquête sur le fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux de Martine Kahan, qui vient de paraître chez Classique Garnier. L'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo sous la direction de Thomas Fulton. C'était le début de l'ouverture de la mouette de Portici de Daniel François Esprit Aubert. Bonjour Martine Kahan.
Bonjour.
Vous êtes donc l'autrice de cette passionnante enquête sur le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux que vient de publier les éditions Classiques Garnier. Alors vous avez fait mille choses dans votre vie, je ne sais pas comment il faut vous présenter. Conservateur général des bibliothèques, d'abord directrice de la bibliothèque musicale de l'opéra, et puis vous avez dirigé le service culturel de l'opéra de Paris, et puis vous avez ouvert en 2006 à Moulins le Centre national du costume de scène. Donc l'opéra, c'est votre vie, j'ai envie de dire.
C'est un de mes ancrages, voilà. C'est certain.
Et l'opéra Garnier en particulier.
En particulier.
Voilà, que vous connaissez, je pense, comme votre poche. La mouette de Portici, c'était une des œuvres, en tout cas son ouverture, qui figurait au concert inaugural, ce 5 janvier 1875, au Palais Garnier. Et c'est aussi une œuvre qui réapparaît dans votre livre, et donc dans le fantôme de l'opéra. Alors peut-être, Faut-il rappeler à nos auditeurs Le Fantôme de l'Opéra, donc un livre, enfin, d'abord publié en feuilleton par Gaston Leroux. Gaston Leroux, 1868-1927. Le Fantôme de l'Opéra, c'est 1910 pour la publication en un volume, c'est ça ?
Oui, et l'année précédente pour la publication en feuilleton. En fait, ça couvre les années 1909-1910.
D'accord. Donc des feuilletons, c'est-à-dire que tous les jours, on pouvait lire hein, quelques pages ou quelques lignes, quelques paragraphes des aventures du Fantôme de l'Opéra. Alors racontez-nous ça.
Ça, c'est merveilleux. C'est ce qu'on appelait à l'époque le feuilleton du rez-de-chaussée.
Oui.
C'est un très joli terme qui figurait en bas de la page 3 en général du journal, que les lecteurs du journal attendaient avec passion. Et évidemment, quand ça n'arrivait pas, ils écrivaient des lettres au sang au directeur du journal qui s'en excusait. Et Le Fantôme de l'Opéra a d'abord été publié en feuilleton, de façon un petit peu irrégulière d'ailleurs, puis très vite, ensuite en volume, et très vite en traduction anglaise.
Mmh. Est-ce que, on sait, Gaston Leroux, auteur de romans, on va dire, policier, le jeune journaliste Rouletabille. Est-ce que Le Fantôme de l'Opéra s'inscrit dans cette ligne ou est plutôt un ouvrage à part dans son œuvre ?
Alors, Le Fantôme de l'Opéra est un ouvrage parfaitement atypique dans le corpus de romans, très important corpus de romans, de Gaston Leroux.
Oui.
Avant Le Fantôme de l'Opéra, il avait écrit quelques ouvrages en feuilleton qui avaient été publiés, mais surtout, il était le père de Rouletabille, puisque les deux premiers Rouletabille, les plus connus, évidemment, ont été publiés avant Le Fantôme de l'Opéra et chez un autre directeur de journal, ce qui est intéressant.
Les plus connus, c'est-à-dire ?
Le parfum de la Dame
noire.
Le mystère de la chambre jaune.
Et oui, voilà.
Voilà. Qui ont passionné les lecteurs, qui ont eu un succès absolument extraordinaire. Il reprendra, après Le Fantôme de l'Opéra, son personnage de Rouletabille, qui est issu d'ailleurs de son premier métier et de son grand métier, puisque pendant presque 30 ans de sa vie, il a été reporter, journaliste, puis reporter. Il a été un des premiers grands reporters, comme on les appelle, c'est-à-dire des journalistes qui ne travaillent pas en chambre, mais qui vont sur le terrain, qui voyagent beaucoup et qui ramènent des sujets.
Martine Kahn, avant qu'on résume en quelques lignes quand même l'intrigue du Fantôme de l'Opéra pour ceux et celles qui l'ont peut-être oublié ou tout simplement jamais connu, le rapport entre Gaston Leroux et l'Opéra, est-ce qu'il s'intéressait au bâtiment, ce fabuleux Palais Garnier ? Est-ce qu'il était mélomane ? Est-ce qu'il allait souvent à l'Opéra ? Est-ce qu'il connaissait bien le répertoire lyrique ?
Sa connaissance de l'opéra vient de plusieurs sources. Dans un de ses tout premiers romans qui n'a pas été publié, il a une description absolument magnifique de la façade de l'opéra.
Mmh.
Il allait au bal de l'opéra, pour s'en canailler à mon avis, mais il allait au bal de l'opéra. Il a assisté à des spectacles, c'est certain. Ça, c'est un fait. De l'autre côté, pendant 3 ans de sa vie, il a été, dans son journal, qui était le matin, responsable de la chronique théâtrale. Et donc, il a assisté à des spectacles, assez souvent. Il dit lui-même qu'il aime la musique, mais qu'il ne la connaît pas. Il ne peut pas en parler, il ne peut pas écrire dessus. Il écrit uniquement sur le théâtre. Ça, c'est encore un autre fait. Et enfin, il a été un des grands amis d'un grand directeur de l'opéra. Et ça l'a probablement aidé à connaître le bâtiment. En fait, il est fasciné par le bâtiment.
Mmh.
Et pour moi, c'est un des meilleurs guides qui soit pour une visite du Palais Garnier.
Aujourd'hui encore ?
Oui. Une sombre tour.
Julia Varadi dans le rôle de Rachel, l'orchestre Philharmonia, Antonio de Almeida à la direction. Un extrait de La Juive Opéra de Jacques Froimental à Lévis qui figurait au programme du concert inaugural de l'Opéra Garnier le 5 janvier 1875 et qui a également un rôle dans Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux. Martine Kahn, vous nous disiez que Le Fantôme de l'Opéra était certainement un des meilleurs guides pour découvrir l'Opéra de Paris. La connaissance intime qu'il avait du bâtiment, j'imagine, s'est nourrie de nombreuses visites.
C'est le premier, en fait, l'opéra est le héros du livre. C'est un des seuls livres que je connaisse où c'est le bâtiment qui est le héros. On peut comparer toutes choses égales par ailleurs avec le Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Oui, c'est le même type de livre, pas tout à fait le même. Mais en fait, le vrai héros de l'affaire, c'est le bâtiment. Après viennent les personnages, mais c'est vraiment le bâtiment qu'il connaît comme sa poche. Il l'a beaucoup visité avec Pedro Gaillard, donc le directeur de l'opéra dont il était l'ami, probablement avec l'architecte successeur de Charles Garnier, qui n'était plus architecte de l'opéra à l'époque. Et il avait des amitiés dans la maison, ça c'est certain aussi. Mmh. Et donc ce cadre est un cadre absolument parfait. Avec ça, il vous emmène, il vous conduit et il a un art extrême qui est de mélanger le vrai et le faux. À tel point qu'avec votre esprit cartésien et du 21e siècle, où il avance quelque chose d'invraisemblable, vous vous dites « Ah, après tout, et si c'était vrai ?» Et ça, c'était extraordinaire, cette façon qu'il a de rattraper le lecteur à chaque fois.
Alors Martine Kahn, vous avez évoqué les personnages donc, qui nourrissent, qui peuplent ce livre, Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux. Alors, en deux, trois lignes, est-ce qu'on peut résumer cette intrigue? Et quels sont les deux ou trois personnages principaux?
C'est un trio amoureux, en fait, puisqu'il y a une histoire d'amour dans cette affaire. C'est un trio amoureux entre le fantôme, qui n'en est pas un, on le saura après, la cantatrice et le jeune homme. Le jeune homme est un peu falot. Ça n'est pas le personnage le plus intéressant, mais c'est l'homme de chair et de sang au départ. Évidemment, le plus intéressant, c'est le fantôme, qu'on appelle dans le livre le fantôme, mais aussi la voix. Et ensuite, par son nom d'homme, qui est Éric.
Mais à partir du moment
où on le connaît sous Éric, il est plus intéressant du tout. Il est intéressant quand il est le fantôme ou la voix. Et en fait, la voix est omniprésente dans ce livre, comme l'est la musique et comme l'est le chant. Parce que ce fantôme, la voix, est ce qu'on appelle une apparition de voix. Dans la classification des apparitions, il y a des apparitions de voix. C'est-à-dire que on pense qu'on l'a vu partout. Tout le monde pense l'avoir vu, mais ne l'a jamais vu. Par contre, tout le monde l'a entendu. Et ça, c'est très intéressant. Et puis, ce fantôme, cette voix, il est à la fois un formidable instrumentiste, il est un virtuose du violon, et un virtuose de l'orgue. Il est un compositeur. Il a composé une messe de Requiem, une messe pour son mariage et un Don Juan triomphant, qui sont des grandes œuvres symphoniques. Et puis, c'est un pédagogue de génie, puisqu'il a formé la cantatrice. La cantatrice qu'il aime et la cantatrice qui est un mélange de deux cantatrices qui ont existé, Christine Nilsson, la suédoise, et la finlandaise Aino Acte. Et le portrait de la cantatrice est absolument démarqué du portrait de ces deux femmes, que ce soit au physique ou à l'artistique, c'est-à-dire dans la technique du chant, la beauté du chant, le répertoire, la façon de chanter, etc. Ce sont des filles du Nord. Et Gaston Leroux a un tropisme pour le Nord, ces filles du Nord qui sont mystérieuses, qui sont des nix, qui sont aussi promptes à s'intéresser à ce qui est la normalité, en fait, et puis la beauté de ces filles, et les yeux bleus et les cheveux blonds, etc. C'est très intéressant parce que dans le manuscrit qui se trouve à la Bibliothèque nationale, au département des manuscrits, donné par la famille de Gaston Leroux, au début, dans le manuscrit, ça n'est pas une fille du Nord. C'est une fille du Midi. Elle s'appelle Pauline Bellini, du nom du compositeur, et on l'imagine comme une méditerranéenne, comme une belle méditerranéenne. On ne l'imagine pas du tout comme une fille du Nord. Et puis, elle est barrée, au fur et à mesure, on la trouve barrée, et on trouve le nom de Christine Dae, la belle fille du Nord. Qu'aurait été le roman s'il avait gardé une fille du Midi?
Est-ce qu'on sait, Martin Kahn, pourquoi il est passé du midi au nord, non ?
Pas du tout, sauf qu'il avait encore une fois un tropisme vers le nord. Il a eu des liens avec Stockholm, il a interrogé un des grands explorateurs suédois, etc. Est-ce que c'est suffisant ? Je ne sais pas. Et puis, vous savez, à l'époque, il y avait quand même une bataille chez les cantatrices, entre les cantatrices justement du midi, italiennes en fait, hein, les italiennes, et puis les autres, les filles du nord, les françaises, etc. Donc là, on retrouve une des images du temps.
Alerte! Alerte! Vous vous êtes perdus! Si vous tardez encore, je ne m'en mêle plus!
Le devant! Le devant! Le vois-tu là, à l'ombre, fixant sur les loups, sans être
qui danse le sombre, le jour élevé, de leur pied sonore, j'entends nos chevaux frapper le pavé. Viens, sors-moi, peut-être il en est temps encore.
Nicolas Higueda, Victoria de Los Angeles, Boris Christophe, Faust, Marguerite et Méphistophélès. L'orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris sous la direction d'André Clutin. Je ne sais pas s'ils ont vu passer le fantôme durant l'enregistrement. C'était un extrait de la fin du cinquième acte de Faust de Charles Gounod. Martin Kahn, dans votre livre qui est vraiment une étude absolument millimétrée, extrêmement détaillée du roman, vous n'avez absolument rien oublié. Vous parlez aussi bien de l'heure du fantôme, des lieux du fantôme, des différents directeurs de l'opéra, évidemment la place de la musique, vous présentez chacun des personnages, d'un point de vue non pas narratif, dramatique, littéraire, mais d'un point de vue musical. Est-ce que Gaston Leroux montre une connaissance, une sensibilité assez particulière à la musique à travers son fantôme de l'opéra ?
Je pense que oui, et je pense qu'en fait, quand il parle des goûts musicaux du fantôme, il parle des siens. Soit il en parle via le fantôme, soit il en parle via un personnage que j'adore dans ce livre, qui est Mam Giry. Mam Giry est une ouvreuse. C'est une ouvreuse et c'est la maman d'un des petits rats de l'opéra. C'est une merveilleuse femme du peuple, avec le bon sens, avec la liberté de parole. Et elle connaît évidemment le répertoire de l'opéra sur le bout du doigt, puisqu'elle est ouvreuse, elle assiste au spectacle, etc. Il faut dire qu'à l'époque, le répertoire de l'opéra est très petit. Pas du tout ce que c'est devenu. On donne les 6-7 mêmes œuvres, allez, on va dire les 10 mêmes œuvres pendant des années, des dizaines d'années, des vingtaines d'années dans la même production. Les abonnés d'ailleurs voient les mêmes œuvres.
La musique qu'on entend depuis le début de notre émission.
Voilà, d'ailleurs, très souvent, on n'assiste pas à la totalité du spectacle. Oui, oui. On vient pour une partie du spectacle, un air, le ballet, ce qu'on veut. Et donc, à plusieurs reprises, je trouve que Gaston Leroux montre le bout de l'oreille. C'est-à-dire qu'il y a une petite phrase comme ça que j'ai relevée. À un moment, le fantôme qui va déclencher un terrible cataclysme dans l'opéra, en fait, qui va faire sauter l'opéra, il faut pas oublier qu'on est juste après les attentats anarchistes. Sur lesquels Gaston Leroux a beaucoup travaillé, puisqu'il était journaliste à ce moment-là, et que faire sauter Paris était un des thèmes constants. Et donc, le fantôme va faire sauter l'opéra, va déclencher en plus une inondation, etc. Et il dit, et c'est quelques centaines de Parisiens qui assistent à ce pauvre chef-d'œuvre de Meyerbeer. Et ce pauvre chef-d'œuvre de Meyerbeer m'est resté, en fait, dans la bouche. Et quand il évoque la musique qui est composée par le fantôme, donc ces deux requiem et ce donjon triomphant, il parle d'une musique cataclysmique et il parle d'une musique de l'avenir, en fait. Et ça, c'est bien évidemment l'avancée du répertoire wagnérien qui, grâce à son grand copain, le directeur Pedro Gaillard, est en train de rentrer dans le répertoire de l'opéra. Donc je pense qu'il aimait la musique wagnérienne, comme il aimait d'ailleurs les pièces des auteurs du Nord qui sont données à ce moment-là par Louis Nepo, qui les fait rentrer dans le répertoire. Je pense qu'il aimait cette musique de l'avenir et qu'il avait finalement assez peu de goût pour le répertoire du grand opéra.
June Anderson dans le rôle d'Ophélie et les Ambrosian Opera Chorus, l'Orchestre Philharmonique de Londres sous la direction d'Antonio de Almeida. Un extrait du final de l'acte 4 de Hamlet d'Ambroise Thomas. À nouveau une musique qui passe à travers les lignes du fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, Martine Kahn.
Oui, puisque Christine Nilsson, donc un des modèles, le principal modèle de la cantatrice, avait été la créatrice d'Hamlet. d'Ambroise Thomas, une réputation extraordinaire d'ailleurs à cette occasion. Tout est vrai dans ce qui concerne les cantatrices et leur répertoire, tout est juste, tout est vrai, tout est documenté, tout est parfait, idem dans le chapitre qui concerne les œuvres.
Et Martine Kahn, le public de l'opéra de cette époque, est-ce qu'on le perçoit bien à travers l'écriture de Gaston Leroux ?
Pas tellement. Pas tellement. On voit pas tellement le public. On le voit un petit peu à l'occasion d'une ou deux anecdotes, en fait. Hein, quand le fantôme met sa, on loue sa loge, la loge numéro 5, ce qui est absolument interdit. Et quand on la loue à de malheureux spectateurs, et il se passe évidemment des choses abominables dans cette loge, du bruit, etc. Et on cite le nom de ces spectateurs. Mais pas tellement.
Vous venez de citer, Martine Kahn, la loge numéro 5. Il faut peut-être en dire quelques mots.
La loge numéro 5 est mythique, évidemment. Vous savez qu'il y a des spectateurs qui demandent expressément la loge numéro 5.
Aujourd'hui ?
Oui, toujours aujourd'hui. En ayant peut-être l'idée d'y rencontrer le fantôme ou de moins de l'entendre, puisqu'en tout cas, on l'entendait. On ne l'y a jamais vu, mais on l'entendait. À tel point, elle est tellement célèbre que la direction de l'opéra a mis une plaque sur la porte de cette loge qui dit bien « Loge numéro 5 », qui est la loge du fantôme. Elle est intéressante aussi parce que l'ouvreuse de cette loge numéro 5 est donc Mame Giry, dont je vous ai parlé, oui, qui connaît absolument toutes les habitudes du fantôme. Alors, le fantôme a sa loge, mais on ne l'y voit jamais. Mais on n'a pas le droit de louer cette loge à qui que ce soit d'autre. Ce qui évidemment embarrasse beaucoup les directeurs, parce que déjà, il ne faut pas oublier que c'est un manque à gagner. Les premières loges sont les loges qui sont louées le plus cher.
Bien sûr, ouais.
Ensuite, qu'on a eu la mauvaise idée de la mettre dans l'abonnement et qu'il y a des abonnés qu'on va être obligé d'installer ailleurs. Donc déjà, ça c'est très ennuyeux. Ensuite, les directeurs qui ne comprennent rien à cette affaire, puisqu'ils viennent d'arriver, ce sont les nouveaux directeurs, décident de s'installer dans la loge numéro 5 pour voir enfin ce qui s'y passe et voir le spectacle. Et c'est là qu'ils déclenchent ce terrible accident. Le fantôme leur a dit, la loge numéro 5 c'est la mienne, ne vous y installez pas. Le rôle de Marguerite c'est celui de ma cantatrice, ne le donnez pas à quelqu'un d'autre. Ils font les deux erreurs et c'est là que le fantôme déclenche cette catastrophe, la lumière s'éteint et le grand lustre de l'opéra tombe et s'écroule dans la salle.
Très bien, merci beaucoup Martine Kahn. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Enquête sur le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, qui donne absolument envie de se précipiter sur le livre, de le relire ou de le lire ou de le relire. C'est un livre qui va te paraître, en tout cas votre étude qui vient de paraître, chez Classique Garnier. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Doria Zénine, à la technique Philippe Thibault, attaché de production Annick Aumier.
En piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulnier, à 9h sur France Musique.
Demain, nous ouvrons une semaine consacrée à un grand violoniste.
L'américain Joshua Bell nous accompagne avec tous ses grands disques en musique de chambre ou en concerto.
En piste, au violon, dès demain 9h.
En piste, une émission France Musique, à retrouver sur radiofrance.fr et l'appli Radio France.
Musique.
Il est 14h30, excellente journée à l'écoute de France Musique. Tout de suite, la saga La Grande Histoire de l'Opérette de Benoît Dutertre.
La Grande Histoire de l'Opérette, une saga en 7 épisodes proposée par Benoît Dutertre. Cinquième partie, l'opérette des années folles autour de Maurice Yvain.
Et nous avons vu au cours de l'épisode précédent comment l'opérette française à la Belle Époque avait été marquée par les succès d'André Messager, mais aussi par l'arrivée des nouvelles opérettes viennoises de Léard ou d'Oscar Strauss. Je vous propose d'aborder aujourd'hui les années 1920-1930 qui vont marquer un changement complet de style pour l'opérette et voir triompher la fantaisie des années folles. Mais revenons d'abord à la Première Guerre mondiale qui sépare la Belle Époque des années folles, car durant ce conflit, même si la vie des spectacles se fait plus discrète, on assiste à la création de quelques opérettes tournées comme il se doit vers l'effort de guerre. Le champion du genre, c'est le compositeur Henri Goubliéfis avec son grand succès de 1915, La Cocarde de Mimi Pinson, une histoire d'amour entre un bel officier et une jeune fille qui va coudre dans sa cocarde une pièce d'or et le sauver d'une balle en plein cœur.
Petite cocarde, si tu pouvais aller trouver celui que j'aime, être placé près de son cœur, il me semble que tu écarterais de lui tout danger. Mais comment te faire parvenir sans qu'il se doute? Je trouverais bien un moyen. Et ces petits bouts de ruban que j'embrasse de toute la force de mon amour seront pour lui un talisman.
Avec Goublier et sa cocarde de Mimi Pinson, nous sommes encore dans la veine sentimentale des opérettes 1900. Mais tout va changer dès la fin de la guerre et dans l'euphorie de la victoire en 1918, alors qu'un jeune auteur particulièrement doué, qui a déjà écrit quelques revues et qui se nomme Albert Wilmets, imagine une petite comédie légère se déroulant dans la Grèce antique à la façon d'Offenbach et qui transpose dans l'Antiquité des histoires d'amour, de maîtresses, de tromperies directement calquées sur la société moderne. L'œuvre s'appelle Fifi, c'est le petit nom de Phidias, l'illustre sculpteur athénien que les dames appellent Fifi, et la partition est d'Henri Christinet avec une succession de chansons joyeuses qui font appel à certains rythmes nouveaux comme le foxtrot. La création était prévue le 11 novembre 1918 au Bouffe Parisien, dirigé par Gustave Quinson. Elle est reportée au lendemain, l'affiche précise, pour cause de victoire. Et ce sera un succès immense avec le génie du calembour de Wilmets qui éclate dans toutes les pages quand, par exemple, il nous rappelle qu'à cette époque antique, les saints étaient encore des païens. Et donc, il en profite pour jouer avec les mots en utilisant le mot païen pour parler des saints des femmes.
Blancheron de leurs eaux contours délicieux. Les païens sont un régal pour les yeux. Ils ont tous, malgré leur forme régulière, une physionomie particulière. Les uns lèvent la tête sans se gêner. Y en a qui, pour garde, l'air étonné. D'autres pudiquement baissent le nez. Qu'ils soient monticules ou promontoires, des pommes, des oranges ou des poires. Les jolis petits païens, c'est toute la femme. Mais oui, madame, je le soutiens. Oh, quel désir quand nos yeux les devinent. Oh, quel plaisir quand nos doigts les lutinent. Ils font bientôt sous notre étreinte des ponts et même des pointes quand on les a dans la main. Mais oui, madame, c'est toute la femme qu'on tient.
Faut-il un peu d'or, d'organisation, c'est logique. Oh, à nous cinq, y a pas d'erreur, nous représentons tout le bonheur domestique.
Je suis la femme, moi la maîtresse.
Je suis le mari,
je suis l'amant, moi le protecteur.
Que dans chaque pièce on verra constamment, indubitablement, inévitablement, nous formons le quintette. Que dans toute opérette, d'audran ou de planquette, on verra s'embrasser. Si le beurre par principe se remplace par le type, nous sommes nous les cinq types, on ne peut pas remplacer. Nous formons le quintette. Que dans toute opérette, d'audran ou de planquette, on verra s'embrasser, s'embrasser. Si le beurre par principe se remplace par le type, nous sommes nous les cinq types, on ne peut pas remplacer. Nous formons le quintette.
Attendez, maintenant que le bonheur domestique est rétabli, je propose que vous preniez la pause.
Oh, puis non, toute réflexion faite, je trouve qu'il est temps d'aller se coucher. L'opérette est terminée.
Mon premier grand succès, il faut le dire en toute franchise, ça a été sa réussite inattendue pour moi de Fifi. J'avais écrit avec mon ami Fabien Solard une petite chose, en moitié prose, moitié vers, que j'avais montré à Sacha, qui m'avait dit « c'est drôle, mais c'est très court, tu devrais le montrer à Quinçon ». Je l'ai montré à Quinçon, et Quinçon m'a dit « c'est vraiment très court, pourquoi n'ajouteriez-vous pas quelques musiques et quelques couplets ?» Alors j'ai eu l'idée à ce moment-là d'envoyer à Christinet, que je ne connaissais pas, un télégramme en lui disant que Gustave Quinçon avait l'intention de monter une opérette dans un de ses théâtres, et je lui demandais s'il voulait bien avoir la gentillesse de venir jusqu'à Paris pour écrire la musique. Et nous avons pensé à elle, Alice Cossea, pour jouer le rôle d'Aspasie dans Fifi. Elle nous a porté bonheur, et je dois dire que je lui ai porté bonheur aussi, puisque ça a été pour elle le départ foudroyant d'une carrière magnifique.
Voilà, c'était donc le témoignage d'Albert Wilmets, grâce auquel un nouveau genre d'opérette est né à la fin de l'année 1918. On appellera parfois d'ailleurs ce genre comédie musicale, non pas au sens de la grande comédie musicale américaine, mais plutôt comme une petite pièce de théâtre avec des chansons, une musique assez simple, un orchestre réduit, des acteurs autant que des chanteurs, et puis le triomphe de la frivolité comme sujet principal. Alors, c'était un nouveau genre d'opérette, mais paradoxalement, le compositeur de Fifi est un compositeur déjà âgé, un compositeur qui a écrit beaucoup de chansons à succès à la Belle Époque, mais il s'adapte très bien à cette nouvelle mode, et avec Wilmets, ils vont signer en 1921 un nouveau triomphe qui s'appelle Dédé. Ça se passe dans un magasin de chaussures, c'est créé notamment par Maurice Chevalier, et y figure cette chanson qui est presque l'emblème des années folles, un refrain imaginé par Wilmets et qui nous dit tout simplement « Dans la vie, faut pas s'en faire ».
En sortant du 30 et 40, je ne possédais plus un radis. De l'héritage de ma tante, un autre que moi se serait dit Je m'en vais me faire sauter la cervelle, me suicider d'un coup de couteau, m'empoisonner, me fiche à l'eau, enfin des morts bien naturelles. Moi voulant finir en gaieté, je me suis tué à répéter. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi, sur terre, faut jamais s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Je rentre à Paris, mais mon notaire m'annonce votre père plein d'attention. Vous colle un conseil judiciaire et 25 louis par mois de pension. Il ajoute, je ne vois plus personne dont vous puissiez être héritier. Faut travailler, prendre un métier, c'est le conseil que je vous donne. Je lui dis, comment vous voudriez que je vole le pain d'un ouvrier? Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi, sur terre, faut jamais s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Dans la vie, faut pas s'en faire.
Toi, tu ne t'en fais pas.
Ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera.
Tu n'as pas un caractère à te faire du tracas.
Oh, crois-moi, sur terre, faut jamais s'en faire.
Toi, tu ne t'en fais pas.
Non, je ne m'en fais pas.
Paris, les Bouffes parisiens, 10 novembre 1921. Au lendemain de la première de Dédé, Gustave Quinson, le directeur des Bouffes parisiens, fit une chose que je n'ai jamais vue se reproduire dans le monde du théâtre. Il vint me voir et me demanda de lui présenter notre contrat. Mes appointements y étaient de 600 francs par jour. Sans explication, il en fit immédiatement refaire un autre aux appointements de 1000 francs pour la première année et 1500 francs pour la seconde. Et la saison se passa comme une féerie. La salle totalement louée plusieurs jours à l'avance et pendant 2 années. Les Bouffes parisiens étaient devenus le lieu de rendez-vous le plus brillant de la capitale.
Maurice Chevalier, le créateur de Dédé, de Christinet et Villemette. Et on l'a vu, c'est donc l'auteur, finalement, Albert Villemette, qui a vraiment donné le ton de ces opérettes nouvelles, plus encore que le musicien, ce qui est un petit peu différent des époques précédentes, où on retenait surtout le nom des compositeurs. Mais néanmoins, justement, à côté de Villemette, va bientôt apparaître un nouveau compositeur, un excellent musicien, fils d'un musicien d'orchestre de l'Opéra Comique. C'est le jeune Maurice Yvain, qui, après plusieurs années de captivité, rentre à Paris en 1920. Il commence alors à écrire pour les nouvelles revues du Casino de Paris des chansons créées par Chevalier, qu'il a rencontré au service militaire, et puis par Mistinguette. Il va notamment écrire le célèbre « Mon homme » sur des paroles justement de Villemette. Et Villemette et Maurice Yvain vont s'associer en 1922 pour écrire ensemble donc une opérette qui reprend les principes légers de Fifi, mais avec une musique beaucoup plus élaborée que celle de Christinet. L'opérette s'appelle « Ta bouche ». Elle se déroule dans la station balnéaire de Trucs-sur-Mer au premier acte, après c'est à Pouic-les-Flots. Elle décrit les nouveaux riches de l'époque et Yvain fait merveille notamment dans les ensembles et finales qui sont des véritables conversations en musique avec ici par exemple Monsieur du Pas de Vis et ses acolytes.
Puisqu'un heureux hasard va nous permettre de rentrer tous quatre en relation.
Puisqu'un heureux hasard va nous permettre de rentrer tous quatre en relation.
Il serait opportun, je crois peut-être, qu'à nouveau nous nous présentations.
Il serait opportun, je crois peut-être, qu'à nouveau nous nous présentations.
Le moment en effet me semble très propice.
Le moment en effet me semble très propice.
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 Très propice. Vous connaissiez mon fils et vous connaissiez Miss, mais pas Madame du pas du pas du pas du pas du pas de vis. Vous connaissiez mon fils et vous connaissiez Miss, mais pas Madame du pas du pas du pas du pas du pas de vis. Vous connaissiez mon fils, vous connaissiez Miss, mais pas Madame du pas du pas du pas du pas de vis. Vous connaissiez mon fils et vous connaissiez Miss, mais pas Madame du pas du pas du pas du pas de vis.
Charmée vraiment Madame de vous voir. Faisons semblant de ne rien savoir. Dans le monde, ce qu'il vous faut avaler, de faux ménages seulement collés. Vous avez un chapeau qui est un vrai délice.
N'est-ce pas qu'il est gentil? Il sort de chez les Whis.
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 Chez les Whis. Chez les Whis. Chez les Whis.
Sûrement ces petits maudits.
D'après tous les indices.
Dans ces magasins du 680, du 690.
Sûrement cet immondice.
D'après tous les indices. Dans ces magasins du 680, du 690. Sûrement cet immondice.
C'est vraiment d'un maudit. C'est un maudit. C'est un maudit. C'est un maudit. C'est un maudit. Oh là là. C'est un maudit. C'est un maudit. Il faut le dire à tous les fils. C'est un maudit. C'est un maudit.
Mais comme l'heureux hasard encore peut-être nous fera rencontrer en Paris.
Mais comme l'heureux hasard encore peut-être nous fera rencontrer en Paris.
Madame du Pas de Vis, veuillez permettre que je vous présente mon mari.
Nous serons ravis autant qu'on peut l'être de connaître enfin votre mari. Elle n'a vraiment pas le trac de me servir mon truc.
Allons, n'ayons pas le trac et servons-lui son truc. Ayons duc.
Ayons duc.
Ayons duc.
Ayez duc.
Ayons duc.
Ayons duc.
Ayons duc.
Ayons duc.
Culot, voici le duc. Montrez-leur votre éducation du culot. Duc, du culot, duc. Songez qu'on vous reluque. Ayez du culot, duc. Montrez-leur votre éducation du culot. Duc, du culot, duc. Songez qu'on vous reluque. Je vous présente.
Enchanté, monsieur. C'est le type de ce qu'on a qui a Charmée vraiment, cher duc de vous voir. Faisons semblant de ne rien savoir. Dans le monde, ce qu'il vous faut avaler, de faux ménages seulement collés.
De mon truc à son tour, il n'a pas l'air complice.
De son truc à leur tour, ils n'ont pas l'air complice.
De mon truc,
de ton truc,
de mon truc,
de ton truc,
de mon truc,
de son truc,
de mon truc, de mon truc.
Si vous ne croyez
pas
que c'est madame,
madame du pas,
madame du pas, madame du pas, 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 du pas.
Gustave Quinson, le directeur du Palais Royal, me fit venir chez lui un jour à Saint-Cloud et me dit « Vous êtes bien l'auteur de ces succès, Maurice Étain. »
« Yvain ?»«
Non, non, Maurice Étain. » Je tentais de lui épeler mon nom, mais peine perdue, pendant plus de 6 mois, pour lui, je fus Étain.
Oh, c'est drôle. Ah.
« Alors, Étain, dit-il, avez-vous déjà écrit de l'opérette ?» Je lui répondis que non, que je débutais. « Eh bien, vous en allez écrire pour moi. Vous allez écrire pour moi avec Mirande et Villemette. Vous ferez une bonne équipe. Tenez, je vous signe un contrat pour 3 opérettes. Au revoir, mon cher Étain. » Je n'étais pas éteint, mais abasourdi.
Mais il y a de quoi.
Et quand, avec le recul des années, je pense au grand directeur que fut Quinson, à son amour du théâtre, je souhaite à tous mes jeunes confrères de trouver sur leur route un pareil enchanteur, si la race n'en est pas disparue, qui d'un trait de plume leur puisse donner un théâtre, une distribution unique, des conseils précieux, enfin tous les atouts en somme.
Maurice Yvain qui évoquait quelques souvenirs en 1944. Maurice Yvain donc qui fait ses débuts dans l'opérette avec Albert Villemetz dans Ta bouche, immense succès de cette parodie des nouveaux riches d'après-guerre. Et du coup, eh bien, Yvain et Villemetz vont se lancer dans la composition d'une nouvelle opérette avec le librettiste Yves Mirande. Elle s'appelle Là-haut. Là-haut parce que ça se déroule là-haut, au paradis, au ciel, mais un ciel qui ressemble beaucoup aux Folies Bergères avec les boys et les girls qui sont le cœur des anges. Tout ça est très joyeux, tout ça chante sur des nouveaux rythmes à la mode. Le vrai, le seul paradis, c'est Paris. Et l'œuvre est créée notamment par Maurice Chevalier dans le rôle du jeune premier. Et puis un vieux chanteur de la Belle Époque qui s'appelle Dranem, qui fait son retour et qui va connaître beaucoup de succès dans les années suivantes sur les scènes d'opérette. En plus, il y a toujours, eh bien, Wilmets, qui a ce génie de trouver des formules qui font mouche, plus encore avec la musique de Maurice Yvain. Tout à l'heure, c'était « Dans la vie, il faut pas s'en faire ». Ici, c'est « Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres », qu'on va entendre maintenant. Et tout de suite après, le très joli trio du final de l'acte 2, qui est un peu comme une leçon de solfège.
Pourquoi plein de dédain ? Dites-vous, je crois bien qu'elle a des petits seins, c'est idiot. Les petits seins, monsieur, d'abord sachez-le, cela tient beaucoup mieux que les gros. Puis on a le plaisir de les voir grandir, pousser, s'arrondir et bondir. Quoi de plus ingénu que des seins menus ? Et puis, monsieur, au surplus, si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. Je n'ai pas sur ce point-là le même avis que le vôtre. Quand c'est tout petit, c'est bien plus gentil. Quand il y en a beaucoup, on n'en voit que vous. D'ailleurs, c'est toujours beaucoup mieux de garder un juste milieu. Si vous n'aimez pas ça, ne dégoûtez pas les autres. Je n'ai pas sur ce point-là le même avis que le vôtre. Enfin, pour la mode, c'est bien plus commode. Pour danser le chimie, c'est bien plus mimi. Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. La saison dernière, dans un trou pas cher, je prenais mes bains de mer sans maillot. D'ailleurs, à quoi bon porter un caleçon, voir un joli garçon, c'est si beau. Je prenais donc mes aises quand une vieille anglaise tout à coup surgit et rugit. « Oh, fit-elle, mon Dieu, comme c'est affreux !» Je répondis d'un air gracieux. « Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. Les beautés de votre pays sont-elles différentes des nôtres ? Dans mon petit complet, qu'est-ce qui vous déplaît ? Je vous en supplie, voyez-vous un pli, car je m'aperçois que vos yeux tiquent sur un endroit de ma plastique. Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. » Vous n'avez pas ce truc-là, probablement sur la vôtre. C'est un grain de beauté, je ne peux pas l'ôter. Il est mal placé, mais le disque est assez. Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres.
Mes amis, pas tant de bruit, tant de cris. Il fait nuit. Ici est endormi, je parie un louis qu'il est minuit.
Si je fais du bruit et si je crie ainsi la nuit, lorsque tout ici paraît endormi, c'est qu'à mon avis, et je parie au moins de louis, avec vous et lui sans parti pris, qu'il n'est pas minuit.
Eh bien, je vous contredis, car ma montre me dit, en dépit de vos cris et de votre parti pris, qu'on devrait être parti. Comme vous, cela m'ennuie de faire autant de bruit aussi tard dans la nuit. Mais avec vous, avec lui, je parie 200 louis. Si tout est endormi, qu'il est plus de minuit.
Il vous dit que tout est endormi, c'est faux, car tout est endormi, hormis vous trois, mes bons amis.
Oui, tout.
Mais si monsieur crie et fait du bruit,
est endormi.
En dépit de la nuit, je ferai comme lui.
Il est minuit.
Moi, je n'admets pas les montres qui avancent, ni les gens qui nient et qui parient, j'ai pas fini. Et parie 200 louis, c'est inouï, alors qu'ils n'ont pas un radis, uniquement parce que ça m'ennuie qu'il soit déjà plus de minuit.
Eh bien, je vous contredis, car ma montre me dit, en dépit de vos cris et de votre parti pris, qu'on devrait être parti. Comme vous, cela m'ennuie de faire autant de bruit aussi tard dans la nuit. Mais avec vous, avec lui, je parie 200 louis. Si tout est endormi, qu'il est plus de minuit.
Si je fais du bruit et si je crie ainsi la nuit, lorsque tout ici paraît endormi, c'est qu'à mon avis, et je parie au moins de louis, avec vous et lui sans parti pris, qu'il n'est pas minuit, je le dis.
Mes amis, pas tant de bruit, tant de cris, il fait nuit, tout ici est endormi. Mes amis, il est minuit.
Mais je viens d'y penser depuis que l'on a commencé.
C'est insensé, nous sommes bien avancés.
Il est, j'en suis renversé,
minuit passé.
Mais je viens d'y penser depuis que l'on a commencé.
C'est insensé, nous sommes bien avancés.
Il est, j'en suis renversé,
minuit passé,
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 minuit.
c'est...
Et vous avez remarqué le bel agencement de ce trio avec d'abord les noirs, puis les croches, puis les triolets, puis les doubles croches et ça ralentit à nouveau jusqu'à la fin. C'est la musique très très bien construite de Maurice Yvain qu'on reprend d'ailleurs aujourd'hui de temps à autre. Là-haut a été donné à Paris ces dernières années et c'est toujours pour la plus grande joie du public mais aussi pour la plus grande joie des musiciens. À l'époque d'ailleurs, le jeune Arthur Honegger, qui est compositeur d'avant-garde mais aussi critique musicale, s'enthousiasme dans un article où il écrit un final divin s'est ficelé comme un final de Haydn. Ce petit musicien est un maître, une telle emprise sur la foule prouve quelque chose et n'est pas le fait du premier venu. Et cet art, eh bien, Maurice Yvain va le déployer jusqu'à la guerre dans une quinzaine d'opérettes, non plus tellement avec Wilmette ou Mirande, mais plutôt avec un nouveau librettiste, André Barde. Il va connaître de nouveaux grands succès comme Pas sur la bouche, Gosse de riche, Yes et quelques autres encore, notamment Au papa, en 1933, dont nous allons écouter maintenant le final endiablé. Ce sont les fausses retrouvailles de théâtre entre un père et une fille qui ne sont ni le vrai père ni la vraie fille. L'intrigue est un peu compliquée, mais ça donne cette musique irrésistible qu'on va entendre maintenant. Et tout d'abord, on va retrouver la voix de Maurice Yvain en 1946, qui nous parle de la définition de l'opérette, du moins comme il la conçoit lui-même.
L'opérette est un genre essentiellement français. C'est une forme éminemment nationale. À vrai dire, l'opérette devrait être un opéra comique gay. Offenbach, son génial promoteur, disait que dans ce genre, bientôt qualifié secondaire par les musiciens, son ambition était de faire court. Si l'on y réfléchit, son ambition était grande. Il ajoutait que, dans une œuvre qui contenait trois quarts d'heure de musique, qui se contente que de quatre ou cinq personnages principaux, et n'utilise qu'un orchestre de 30 musiciens, il faut avoir des idées, et de la mélodie argent comptant. Théophile Gautier, lui, de son côté, écrivait ces lignes qui paraissent actuelles. Il est fâcheux que des préoccupations classiques empêchent les compositeurs en renom de s'emparer de cette forme si souple, si commode, si facile aux caprices, qui se prête à tout, même à la poésie. Enfin, peut-être après tout, est-ce plus difficile qu'on le croit que d'écrire de la musique facile.
J'ai retrouvé tout à coup.
Elle a retrouvé tout à coup.
Ça m'a fait trembler les genoux. C'est le monté fou. Celui que j'avais perdu.
Bien sûr, elle l'avait perdu.
Papa, 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 papa,